français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. Les changements d'entraîneurs, de discours et de méthodes n'y font rien. Semaine après semaine, Montpellier continue de couler au point de se demander aujourd'hui si le MHR pourra retrouver la surface d'ici la fin de saison et conserver sa place dans le top 14. On ouvre le débat entre les poteaux dans un instant. Si Montpellier coule, le RCT lui retrouve ses ailes d'antan. Toulon qui s'est payé le luxe de venir battre le Racing dans son antre de Nanterre avec un crime de lèse-majesté signé Gabin Villière, un frelon aussi offensif qu'il est défensif. Du coup, Colazo est resté calme hier, pas de gros mots ni d'insultes, d'autres, rassurez-vous, l'ont relayé. C'est le cas notamment de Christophe Furios. Nous verrons que nos entraîneurs du top 14 ne sont pas très courtois. Heureusement, chez les poteaux, nous avons des gens polis, bien élevés, qui ne s'engueulent que courtoisement. C'est le cas de notre Denis Charvet national qui sait conserver son sang-froid, même au plus fort des débats. Ça va, Denis ?
Ferme ta gueule !
Ben voilà, ça commence bien. Bravo, magnifique.
On y reviendra dessus.
Enfin, nos rudes gaillards d'RMC. Wilfried Templier et Jeff Paturo sont à la fois raffinés, subtils, délicats, presque mignons parfois. Hein
ah bon
enfin, à la radio, parce que dès que les micros se ferment, évidemment,
on a du mal
autrement.
À la fermer.
Tu veux de l'argent, quoi ?
Comment allez-vous, mes mignons ? Ça vous plaît que
je vous salue ? Les mignons.
J'aime bien les flatteries.
Tic et tac.
Et puis, on aura un autre mignon dans quelques instants, Julien Landry. Celui-là,
il n'est pas très beau,
lui. Il n'est pas très mignon. Puis, il n'est pas très mignon. Puis, il est surtout beaucoup moins courtois que vous. Allez, avec tout ce petit monde, nous allons donc attaquer notre première mêlée des poteaux.
L'action, mêlée, jeu.
Désespérant ce MHR qui n'arrive plus à gagner et laisse échapper semaine après semaine des matchs imperdables dans les dernières minutes. Cela a donc encore été le cas ce week-end à la maison contre Castres. Montpellier battu 21-19, ce qui porte quand même à 7 le nombre de défaites consécutives. Alors on parle parfois de choc psychologique lorsqu'il y a un changement d'entraîneur. En tous les cas, c'est le but avoué. Dans le cas de Montpellier, le choc n'a pas eu lieu. On se demande quel levier Altrad va pouvoir actionner pour empêcher son club de sombrer. Julien Landry, je vous l'avais promis, donc avec nous. Bonjour mon mignon, comment allez-vous ?
Salut messieurs, salut à tous.
Salut Julien. Alors Peyo, la situation de Montpellier est un vrai casse-tête. Que faire pour tenter d'enrayer la marche vers la Pro D2 ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de solutions en stock. Hein.
Il y a une solution pourtant qui semble évidente, c'est renouer avec la victoire. Oui. C'est pourtant si facile à dire, pour chasser ce doute qui plombe le moral des troupes et qui bride les joueurs. 9 défaites sur les 10 derniers matchs, 5 dans les 10 dernières minutes, avec une cause différente à chaque fois. Une mêlée fébrile contre Pau, une défense poreuse contre Bordeaux, un mental défaillant contre Brive et une pénalité capitale ratée contre Castres. Des contre-performances qui plombent une équipe qui ne sait plus jouer au rugby. Arthur Vincent était désabusé hier, mais toujours combatif.
C'est ce qui est plus que de la frustration, c'est ce qui devient grave. C'est ce qui casse les couilles, c'est ce qui nous emmerde. Mais c'est que dans les 15 dernières minutes, on est incapable de finir le match. On est dans une mauvaise situation, dans une mauvaise période. Ça c'est clair, ça c'est compris par tout le monde et tout le monde en a conscience. Mais par contre, on n'est pas mort, on va se battre. On n'est pas décroché encore une fois. Donc ça, il faut qu'on enlève justement peut-être cette pression ou cette atmosphère pour qu'on puisse à chaque fois scorer, continuer de scorer tout au long du match, pas faire ses fautes et être plus discipliné pour remporter ces putains de matchs.
C'est le discours martelé par PSA. Il faut se lâcher, oublier la pression de la 13e place, le match de la mort n'est pas encore là.
À 11 minutes ou 12 minutes de la fin du match, quand Anthony Boutier loupe la pénalité pour passer à plus 8, de nouveau, on commence à regarder la pelouse, on redevient discipliné, on reprend des pénalités, et on ne rejoue plus au rugby, on se débarrasse du ballon, on ne conserve plus le ballon. Donc voilà, il faut que les mecs se débrident. Le match de la mort, c'est situé 13e contre le 2e de D2, ça sera le match de la mort, mais là, on a des matchs de rugby, il faut que physiquement, rugbystiquement et psychologiquement, on gère les matchs, les fins de match beaucoup, beaucoup mieux.
Mais le mal semble profond et les causes multiples. Le président, tout a déjà été dit. Le staff, fabriqué sans cohésion entre les hommes. Elissal est arrivé dans les valises de Garba, qui n'est plus là. Azam n'a pas été choisi par Jamba. Et ce dernier qui gère les séances n'a pas le titre d'entraîneur en chef, qui incombe à PSA, mais qui n'a pas envie d'être là. Et les joueurs, programmés pour jouer le top 6, ils ne sont pas prêts à faire la guerre tous les week-ends. Et puis PSA cherche des leaders. Picamol et Ouedraogo semblent désignés. Mais ces derniers attendent toujours un signe de la direction pour prolonger. On ne peut pas douter de leur amour pour le MHR. Mais leur club de cœur est en grand danger si personne ne décide de le sauver.
Merci Julien, c'est vrai que vu comme ça, ça a l'air compliqué, c'est terrible. Je sais pas si vous avez entendu Philippe, qui a travaillé avec nous pendant de longues années, qui avait retrouvé le sourire après son expérience de sélectionneur. Là on a l'impression qu'il est de nouveau plongé.
On a l'impression de le voir à Marseille.
C'est terrible, hein.
Ouais,
hein,
mais
c'est...
après
mais on peut le comprendre, parce que c'est difficile déjà, comme le disait Julien, d'y aller à contre-courant, contre sa volonté ou presque, et là de se retrouver dans une telle situation, c'est chaud.
Alors il y a deux choses. Moi j'ai les derniers matchs de Montpellier, je les ai quasiment tous vus. J'ai vu celui de Brive, j'ai vu celui de
Lyon.
Ils se ressemblent tous, en fait. Tu peux pas reprocher aux joueurs de s'investir, hein. C'est même très frustrant, parce qu'ils s'engagent, ils s'envoient. Tu peux pas leur reprocher leur implication. Mais après, ça manque de leader, ça manque de réflexion, ça manque d'analyse.
Ça manque de confiance, surtout.
Et de confiance. Alors, je sais que Philippe disait.
À chaque fois, hein.
Oui, mais Philippe parle de peur de gagner. Je ne suis pas certain non plus, parce qu'après, à Brive, ils oublient de jouer en seconde mi-temps. Là, ils ont oublié de
jouer tout le match. Là, hier,
tout le match, oui. Non, mais après, il y a des mots MAUX, bien sûr, qui sont ailleurs pour moi. Hein. Je pense qu'ils sont psychologiques, qu'il faut remettre... Et moi, j'ai envie de dire à Philippe, vas-y, retourne sur le terrain, parle-leur, secoue-les.
Tu penses qu'il le fait pas, qu'il leur a rien dit?
Je sens qu'il a envie de le faire, mais qu'il se retient un peu, parce qu'il a pas envie de s'impliquer trop, dans la mesure où il a pas envie de rester après le mois de juin.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on pense déjà à l'après.
Mais oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le prochain entraîneur de Montpellier.
Il y a une urgence aujourd'hui, ils sont dans l'urgence, ils sont dans le dur. Moi, je pense que Philippe, maintenant, il reprenne les rênes, quoi. Moi, je suis loin de Montpellier, mais en même temps, je vois leur match, je me dis,
mais c'est difficile pour un entraîneur à Montpellier d'avoir vraiment les rênes, Julien. Avec, c'est un peu comme à Nantes en foot. Il y a toujours le président au-dessus qui fait planer la menace et qui tient les rênes. En l'occurrence, Moël Daltrade, hein.
Ouais, les entraîneurs, depuis que Moël Daltrade est là, c'est le quatrième entraîneur. Alors le cinquième, si on compte Philippe, mais il y a que les résultats qui sauvent la tête des entraîneurs à Montpellier. Fabien Galthié est resté 4 ans. Il est arrivé au bout d'un cycle. Jack White est venu en dépannage, il s'est arrêté. Verne Cotter a sauté après des contre-performances. Garbajosa n'a pas résisté à la mauvaise série. Et si Philippe fait un mauvais 6 prochains mois, son avenir sera peut-être obscurci aussi à Montpellier.
Mais il faut c'est pour ça qu'il faut qu'il se positionne, Philippe. À partir du moment où il a accepté et puis je pense que Moed Altra a confiance en lui. Donc
il est très content de son travail. Mais oui, mais
je sens qu'il est sur la retenue. Alors c'est pas un message que je lui fais passer, je sens que j'ai jamais dû lui dire vas-y, il reste 3-4 mois, vas-y à fond.
Oui, mais enfin,
pour voir une situation pourrie, hein, là. Parce que la semaine dernière, on s'était dit, Montpellier.
Enfin, mais là j'ai peur pour
Denis, t'as dit,
Non, là, je m'inquiète pour eux.
C'est la 12e place, on la voit en grand pour eux, là. La 13e, pardon, excusez-moi. Et malheureusement pour Agen, il y a Agen derrière qui est bon dernier, que ça peut être synonyme de barrage. Mais comme Julien a dit, il y a tout qui est pourri avec ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, parce que tout va être encore balayé. Faut chercher une identité de club, mais compter sur les doigts d'une main peut-être les joueurs qui aiment cette identité de club. Là, il y en a pas beaucoup. Donc c'est noir quoi.
Et puis autant ça manque de patron quoi. Je le redis, je parlais de leader tout à l'heure.
Mais les patrons attendent un geste de la part du club pour être prolongé.
Non mais
et tant qu'ils sont pas prolongés, ils vont rien. Bah oui, les patrons.
Les patrons naturels
du MHR depuis des années.
Ouedraogo,
Picamol, Guirado
était pris pour ça aussi.
Du pays.
Guirado était pris pour ça.
Que Guirado arrive dans un club, ce club ne gagne plus. C'est quand même terrible.
Bon, il a quand même gagné quelques titres
avec Toulon. Oui, avec Toulon. C'est vrai, tu as raison, je suis méchant.
Ils sont quand même dans le genre que tu viens de citer. Hein.
Ils sont, oui. C'est aussi la génération.
Et les stars attendues.
Quel est le programme des prochains? Alors justement, on va en parler avec Julien, parce que la situation n'est pas encore désespérée. Ils sont 13e, mais avec une marge considérable d'avance sur Agen. Ils n'ont plus de match en retard.
Si, un match en retard contre le Stade français.
Le but, donc, c'est de terminer au moins 12e. Mais le calendrier à venir n'est pas des plus favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, Julien. Hein.
Bon, c'est tout simplement le pire des calendriers pour une équipe qui veut se sauver. Des déplacements chez des concurrents directs, Castres, Pau ou Agen, et des réceptions de Cador comme le Racing, La Rochelle ou Toulon, qui voudront prendre les points chez une équipe où Toulouse, Bordeaux ont déjà gagné. Et ce parallèle inquiétant, l'USAP en 2014, programmé pour jouer le top 6, qui avait fini en Pro D2 pour la première fois de son histoire, avec un changement d'entraîneur en cours de saison, et des joueurs comme Guirado, Taofi Fenua, Vahamaina, Charteris, Lopez, Hook, Guitoun, des noms, des CV ronflants, des internationaux à tous les postes, mais une ribambelle de blessés durant la saison, comme le MHR. À l'heure de lutter pour le maintien, les noms ne suffisent pas. en espérant pour Montpellier que Guirado ait retenu la leçon pour aider le MHR à se sauver.
Encore que la grande différence, c'est qu'à l'époque, il descendait directement.
C'est vrai.
Il n'y avait
pas de barrage. Il y avait
pas de barrage. C'est un club de Pro D2.
C'est le Pro D2.
Mais sauf qu'il y a beaucoup d'exemples de ce barrage-là qui ont fait que l'équipe qui n'était pas attendue s'est qualifiée.
Le salaire de la peur.
Non, mais il y en a eu plein. Il y a eu Yonax, je crois. Il y a
le Pro D2 qui monte, ouais. Mais ce qui est compliqué sur les semaines à venir, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui vont basculer sur l'équipe de France. Comment ils vont revenir rincer en plus des matchs, si le tournoi a lieu bien sûr, pour revenir après avec Montpellier. Montpellier pensait faire le plein de points pendant que tous les meilleurs joueurs étaient présents. C'est pas le cas et ça devient franchement inquiétant. Ouais.
À tel point qu'on commence aussi à voir sortir de ça de là des noms d'un futur entraîneur, c'est-à-dire qu'on vient juste d'en nommer
c'est
un
le moment, ouais.
Mais voilà, oui, il y a le nom Philippe de Sheikha, de Gatland.
Philippe au moment où il avait pris sa fonction avait déjà aussi travaillé sur le successeur, parce d'accord. que comme il ne veut absolument pas s'investir, sa mission aussi c'est de trouver quelqu'un rapidement, qui plaise à Moued Altrad, ouais. pour que Moued Altrad le libère de ce rôle d'entraîneur. Et Philippe Saint-André, il est un peu entre le cul entre deux chaises en ce moment.
Venez vite me succéder là, j'en peux plus de ce poste. Le poste est pourri, ouais, tenez, je vous le file.
Philippe, il est important, messieurs, dans sa communication. Hein. Faut pas qu'il fasse coquère triste là, hein, ouais, quand il vient parler. Alors il le sait, on n'a pas besoin de lui dire, hein, mais parce qu'il faut, il a un groupe qui est meurtri et il faut un entraîneur entraînant, quoi. Donc
c'est compliqué voilà, quand même.
L'équation est difficile à résoudre, évidemment, pour Philippe Saint-André, pour ce club de Montpellier, donc une nouvelle fois battu ce week-end. Et le frelon du week-end, il est évidemment pas allé chercher du côté de Montpellier. On a hésité à le décerner à Pierre-Henri Broncan, nouveau coach du Castres Olympique, tombeur du MHR, qui lui a créé un vrai choc psychologique du côté de Castres. Mais au vu du match de gala et du spectacle proposé hier soir par Toulon et le Racing, on a décidé de l'accorder à Gamin Villière, l'ailier toulonnais, aussi à l'aise en attaque qu'en défense.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Merci à Julien Landry, en tout cas, de nous avoir accompagnés, parce que là, on va parler de Toulon, donc ça ne concerne plus. Gamin Villière, je le disais, du genre tenace, un vrai pansement, et Virimi Vakatawa, son coéquipier en équipe de France, en sait quelque chose. Lui qui, hier soir, a été privé d'un essai tout fait, on peut le dire.
Quand on regarde le score à la fin, Christophe,
ça fait la différence.
Ouais, bien sûr.
29-23 pour Toulon.
Ouais. Mais bon, ce retour, la rage aux dents, les bras en avant de Villière qui plaque Vakatawa avant qu'il ne l'aplatisse, en lui faisant dégueuler le ballon, franchement, c'est un geste d'école. Hein.
C'est un geste d'école et ça montre la rage et le caractère dans cette équipe.
Détermination.
Vraiment la détermination. Ce sont des chiens qui lâchent rien. Et Virimi Vakatawa, il a mis à peu près 14 minutes à se décider quand est-ce qu'il allait aplatir. Il attendait peut-être Teddy Thomas.
C'est l'école Racing avec Teddy Thomas.
C'est les célébrations assez classiques qu'on voit souvent à l'aréna et c'est vrai que ça met du temps. Et je pense que ce sera peut-être la dernière fois qu'il va faire
de sa carrière. Bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs qu'une équipe de France, il le refera pas.
Non.
Non, mais après ça peut faire basculer le match, c'est certain. Mais Toulon a été meilleur, la meilleure équipe a gagné hier, et c'est à l'image de ce Gamin Villière qui est surprenant, quoi. Surprenant. On en dit que du bien tous les week-ends, mais là, sincèrement, il est en train amener la concurrence. Pourquoi pas le voir pour le tournoi?
Il a été bon, pas que en attaque, hein.
En défense.
Il a amené une pénalité dans un ruck. Voilà un joueur qui a compris que les internationaux doivent toujours faire un gros mois de janvier, hein, avant le tournoi. C'est souvent le cas. Les mecs se montent. Normalement, c'est à travers la Coupe d'Europe. Et là, il a été vraiment complet. Et pour plaire à ce staff, il a de la régularité, quoi. Depuis, on en avait parlé il y a quelques semaines.
Oui, bien sûr. On l'avait déjà désigné.
Fait très attention aux prestations de chaque joueur. Je peux te dire qu'il sera pas loin du bout.
Ouais. Bah surtout qu'il normalement il doit rester une place à l'aile.
Oui,
parce que on se dit que Damien Penaud va occuper une aile, qui va occuper l'autre. Et c'est vrai qu'hier c'était intéressant parce qu'il y avait lui, il y avait Teddy Thomas, il y avait
Théophile Finois.
C'est vrai qu'il y avait du monde. Et c'est lui qui a été le meilleur, le plus étincelant.
Hein. C'est un garçon qui réussit à 25 ans.
On fait un comité de sélection.
Allez, faisons un petit comité de sélection. Bon, Denis, tu es évidemment sélectionneur en chef. C'est toi qui auras le
Penaud
dernier mot.
À gauche, Villière
c'est
à droite.
Fabien Galthié, Denis.
Penaud à gauche, Villière à droite. Mais il y aura quoi? Il y aura trois ailiers
Non, c'est Penaud à droite.
Ouais,
Penaud à droite et Villière à gauche.
Ça veut dire que Teddy Thomas ne sera pas dans le groupe, du coup, parce qu'il ne sera pas remplaçant.
Donc c'est ce que c'est.
De toute façon, c'est Villiers ou Thomas. Hein,
non, c'est Villiers ou Thomas. Peut-être qu'à l'arrivée, ce sera Teddy Thomas, mais on sait que bon, il est, notamment sur la défense. C'est là où parfois on a eu des craintes avec Teddy Thomas, c'est-à-dire que sur son placement, Jeff. Donc là, il a marqué beaucoup de points sur, oui, parce que, sur le niveau de la défense, Gamin Villiers.
En défense, voilà, Gamin Villiers est quand même plus sûr que Teddy Thomas.
Après, offensivement, Teddy Thomas, on a vu encore quelques éclairs hier. C'est un joueur quand même intéressant dans un collectif, non? C'est un
même facteur Villiers, X. Mais Villiers, il est aussi très efficace, il marque beaucoup d'essais, donc ça a se joué vraiment à pas grand-chose, pour moi.
On peut se tromper, mais vous pensez pas qu'ils vont mettre Tao comme ça tout d'un coup?
Non,
voilà, moi je pense pas. À ce niveau, a priori, non, on est d'accord.
Mais moi, je pense
on en parlera s'ils le font.
Non, mais moi je pense que la prestation des joueurs en championnat est très importante aux yeux de
Fédéric, justement, réalise de très beaux matchs. Bon, hier, il était un peu.
Hier, c'est quand même Gamin Villiers qui
est. C'est important ce qu'il a fait hier.
Il a fait hier, effectivement. Il a marqué les esprits et il les marque régulièrement.
Dans ses gros matchs, en plus.
Il a marqué 3 essais à Toulon l'autre jour face à. Je sais plus qui.
Il avait été bon déjà au mois de novembre aussi, quand même.
Il était bon au mois de novembre. Il enchaîne les performances, donc c'est. Il va pas être loin du coup.
C'est entendu.
Voilà, c'est fait,
bon, à droite, Villiers à gauche.
Donc, vous dégagez Teddy Thomas, vous le mettez.
On le dégage pas, il fait partie il fait partie du stade, et peut-être qu'à l'arrivée, c'est lui qui jouera. En tout cas, je vois mal Penaud ne pas jouer, parce qu'il y a aussi cette interrogation-là, parce qu'il revient quand même, Damien Penaud revient juste. Pourquoi il jouerait aussi, c'est l'interrogation, ça reste aussi une
interrogation. Je pense qu'il est titulaire indiscutable en équipe de France, non?
Ouais. Normalement, il est revenu en très bon
niveau. Ouais, voilà. Il faut un peu de rythme quand même. Il l'a pas encore, hein. Il n'a pas été non plus.
Mais bon, il est pas non
plus au-dessus de tout le monde. Ça joue pas grand chose.
Penaud est pas au-dessus de tout le monde non plus, hein. Donc, il va falloir.
Pourquoi pas Teddy Thomas, mais ça joue pas grand chose. Il faut tout mettre sur la table. Est-ce qu'on a dit? Ballon haut, défense.
Ouais, après, on sait que Damien Penaud est meilleur sur le ballon haut aussi. Attention. Donc, il y a des points chaque
joueur. Pierre Amiche, notre producteur, nous dit, il y a aussi Ficou, l'option Ficou à l'aile. C'est vrai. C'est vrai.
Et la très grosse cote, c'est Vincent Rates qui a été rappelé en équipe de France après le forfait Thomas Ramos. Mais là, bon. Ouais, vraiment être joueur. Oui,
il part de très loin, effectivement. C'est
ça, c'est pour moi, c'est les paris.
Un mot, messieurs, quand même, de cette équipe toulonnaise qui décroche un succès de prestige, et chapeau bas à Colazo qui a décidé d'envoyer la grosse équipe pour aller gagner au Racing. Il n'y a pas d'équipe qui ose le faire. Il l'a annoncé et il est allé au bout de ses intentions.
Racing ne m'impressionne pas. Voilà ce qu'il disait dans la semaine.
Je pense qu'il a un peu exagéré, mais après, quand tu vois la prestation des Toulonnais, c'est chapeau, mais surtout, il va falloir compter sur eux pour la fin de saison avec un gros pack. Je pense qu'ils ont bien géré cette rencontre. Ils ont fait les efforts là où il fallait les faire, notamment devant, où ils ont quand même un peu concassé les racines.
Oui, la deuxième ligne, les gars, Alounouissé et Etsepet hier soir,
énorme.
Ils ont été mais d'une épaisseur.
Donc, c'est le Bakis Botta,
et puis un Paris s'est retrouvé. Je sais pas d'où, mais c'est incroyable. Lui qui était, qu'on avait enterré, qui enchaînait les mauvaises performances. Là, on a revu un Parisien de très très haut niveau. Et puis après, on y a Olivon, la Cafia. Enfin, voilà, c'est.
Ouais. Mais ce qui est intéressant pour cette équipe, c'est que le RCT n'avait gagné qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de saison, à Agen, si je dis pas de bêtises. Oui. Là, c'est une victoire sur un vrai concurrent direct. Et ça, pour la confiance, c'est top quand même pour eux.
Ouais. Un petit test, messieurs. Bon, il est un peu biaisé avec vous, mais quel match avez-vous regardé hier soir à la télé? Vous avez regardé Lyon-Metz ou vous avez regardé Racing-Toulon?
Double écran, mais grand écran rugby.
Ah, double écran quand même.
Ouais, double écran.
Rugby.
Est-ce qu'on a les audiences?
Pour vous dire quand même que.
Pour en profiter parce que ça n'a pas duré très longtemps.
Mais moi, c'est la question que je me pose parce que franchement, vu le spectacle proposé par les affiches de rugby ces dernières semaines,
on se demande s'il ne vaut pas laisser le rugby.
Alors écoutez, messieurs, il y a un compte Twitter, je ne sais pas si c'est vrai, toute la télé là, qui annonce 1,2 million hier soir en prime time pour le top 14.
On va vérifier parce que.
Ce serait énorme.
Les meilleures audiences, c'est souvent 700 000, 800 000, c'est des bonnes audiences.
Mais Toulon, ça amène du monde. Hein.
Mais quand Canal va, si Canal récupère la Ligue 1 et qu'ils mettent du PSG,
tu peux pas lutter contre le match du PSG. En revanche, pour Lyon-Metz, tu peux lutter. Voilà pour ce match de gala. Donc, en plus, Patrice Colazo est resté calme. Pas de nom d'oiseau, pas d'engueulade avec le banc adverse, qui n'a pas été le cas sur tous les terrains ce week-end. Alors, nous aussi, on va l'ouvrir, la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Alors, des entraîneurs qui s'engueulent et s'invectivent, ça arrive parfois. Mais cette saison, vous allez l'entendre, on a dépassé les bornes.
Ta gueule maintenant!
Je joue entre les bancs.
Oh Franck, on tape tout droit, ferme-le un peu! Ah mais arrête, ferme ta gueule maintenant, tu me gonfles!
Sur le plan serré, on verra pas, hein.
Ah mais il aime pas le rugby, c'est sûr.
Ferme ta gueule, je te dis.
Lié.
Arrête, parce que je reviens dans Royal 2, je suis dit, tu veux dire avec moi hein. Bon, arrête, je arrête, Fabien, arrête.
Ah, c'est chaud, effectivement.
Vous croyez que c'était arrivé à la fin, Bud Spencer, là. Paf!
Oh, c'est incroyable. Alors, le problème, qui est accentué par le huis clos, évidemment, puisqu'on entend tout ce qui se passe sur le terrain, mais c'est quand même pas un bel exemple donné par.
Mais non, c'est pas très babasse, ça, Denis.
Mais bon, c'est pas que c'est pas très babasse, c'est que les mecs sont sous pression, ça te donne le. Comment dire, tu vois la fonction, elle est terrible. Ils perdent leur nerf facilement. Et alors là, en l'occurrence, est-ce que Urios a le droit ou pas de donner des recommandations? J'en sais rien. Parce qu'en fait,
dire ta gueule en entraîneur.
Non, pas du tout. Il donne des conseils à la première ligne. Donc, est-ce qu'un entraîneur a le droit? C'est la seule. Ouais. Parce que c'est là où Didier Metz lui dit.
Non.
J'en sais rien.
Ah, il se dit qu'il va influencer l'arbitre en disant ça,
oui, évidemment aussi. Il met la pression sur l'arbitre.
Il dit reste bien haut, l'autre va tomber. Donc, ça doit pas être la première fois que ça arrive sur un bord de terrain, ça, non?
Oui, mais t'influences en cours de match, si tu veux, le comportement.
Et quand Hugo Mola parle à l'arbitre, l'autre fois qu'il regarde la vidéo en disant, mais il aime pas le rugby, lui. Et ça se fait, ça aussi, ou pas? On a le droit, Denis, ça?
Moyen.
Non, mais après, c'est bon enfant, mais en même temps, il faut que
ça met la pression aussi.
Moi, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se parler sur le bord de touche. Il faut leur interdire.
Arrête, Fabien.
Non mais je parle des deux entraîneurs.
Oui.
C'est pas une bonne image.
C'est bien que quand tu dis messieurs, il faut vous taire. Et si tu mets pas de sanctions en place, il y a personne qui va se taire. On est français.
Alors après,
il faut les convoquer.
Après Didier Metz, il a joué souvent contre Rios en rugby.
Ah, il y a peut-être des réminiscences de combat.
Alors ils jouaient talonneur tous les deux. Ils jouaient talonneur. Il y en a un qui jouait à Montpellier, l'autre qui jouait à Castres. Donc
le problème, les gars, c'est qu'on va pas donner des leçons d'exemplarité. Mais ça veut dire, c'est quoi le stade après?
C'est ça que je dis.
Absolument.
Il faut arrêter tant qu'on peut arrêter et voilà, leur dire, leur donner consigne, leur dire, si vous parlez, ben vous allez en tribune. Voilà. Parce qu'il y a.
Même si c'est un métier de dingue, hein. On sait qu'ils ont la pression.
Comme en football, il y a des cartons, je crois. En rugby, je sais pas si ça existe.
Bien sûr, t'as des cartons. Je sais pas si ça existe en rugby.
Je sais pas si ça existe, Jeff. Faut se renseigner parce que, effectivement, en football, tu
sors convocation, amende.
Oui, c'est
autrement,
ça.
Convocation de la commission discipline et amende au club pour la publicité pour le rugby. Là, c'est même si tout est un peu carré maintenant dans ce monde-là, mais quand même, là, à un moment, faut pas. Donc la ligue peut les convoquer et quand il y a des bagarres, les clubs ont des amendes assez fortes. Et il y a des moments, les clubs, vu la conjoncture, de prendre une amende, ça va pas et les faire rire.
Je rappelle juste que les entraîneurs top 14 avaient un petit groupe WhatsApp sur lequel, pendant le confinement, on se donnait des conseils. Ça va, toi, tout va bien. Moi, a priori, il n'y avait pas Urios, mais les autres se donnaient des conseils.
Après, tout le monde a quitté le groupe.
Non, mais je vous le redis, après il y a quand même beaucoup de tensions vu la physionomie du match qui était quand même un match particulier pour Bègles Bordeaux où ils étaient quand même accrochés chez eux et voilà donc bon après c'est pas pour ça que tu dis ferme ta gueule.
Ouais.
Et comme c'est moyen. Quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'avec le.
Imaginez ça se passe au foot. La tornade que ça fait. Imaginez au foot.
Colazo a pris un blâme et si je dis
un
pas
blâme.
Il a pas d'image. Tu n'auras pas d'image cette année et une amende de 2000 euros après le match contre Clermont quand il avait mal parlé tout simplement à Zema. C'est pas beaucoup en fait. Un blâme, ça fait pas très peur.
Voilà donc, messieurs les entraîneurs, calmez-vous. Ou alors, mettez-vous sur la gueule pour de bon, mais qu'on arrête de tourner autour du pot. Allez, tout de suite, on passe à Côté Fermé.
RMC, entre les poteaux.
Côté Fermé.
Et on va tout de suite parler de cette information que tu as travaillé, Jeff, avec Florent Germain, concernant l'équipe de France des moins de 20 ans qui, à son tour, est touchée par le Covid. Et ça, c'est inquiétant à quelques jours du tournoi pour les grands. Mais enfin, pour les moins de 20, ça montre que les bulles sanitaires, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est faut rappeler que le tournoi des destinations des moins de 20 ans, comme celui des féminines, a été reporté à une date ultérieure. Possiblement mai, juin, on disait même peut-être aujourd'hui en juillet. Là, c'était un stage de cohésion, de travail, de préparation à Faro depuis une semaine, sous le soleil. Ça se passait bien, tout vraiment dans le meilleur des mondes, idéal. Sauf que depuis 7 joueurs positifs, 2 membres du staff, 9 cas positifs au total dans cette équipe qui doit rentrer demain. Bah, évidemment, les joueurs positifs vont attendre un peu avant de revenir en France. Il y a une vraie inquiétude. Et l'information, d'ailleurs, elle nous a été confirmée par Serge Chimon, le vice-président de la Fédération française de rugby. Bon, que ce soit mon médecin vacciné aussi. Et lui nous a confirmé que malheureusement, le risque zéro n'existe pas. C'est pas franchement une bonne publicité, oui. Sachant que le gouvernement
La ministre,
et les organisateurs du tournoi Six Nations et les différentes fédérations travaillent sur l'organisation du tournoi, que le gouvernement veut des garanties sanitaires. C'est pas la meilleure des publicités, ça c'est sûr.
Et oui, parce que le gouvernement craint ce tournoi des Six Nations qui approche. Et moi, ça m'inquiète sérieusement, je sais pas vous, mais là, avec le nombre de cas qui augmente, ce variant anglais,
à la Fédé, on veut recommandations. Pour
l'instant, mais... Oui, mais
ben, c'est
on
pas
peut
la fédération
mettre la tête
décide...
au fond du trou en disant il se passe rien, tout va bien. Tout
moi,
va
je suis
bien,
assez inquiet. Je suis assez inquiet. Je pense qu'on peut avoir un report en juin, juillet.
Alors, on va décider peut-être rapidement, aussi, monsieur.
C'est ça, le problème, c'est qu'on va se retrouver du jour au lendemain. Ils vont nous dire c'est fini, il y a plus de tournoi dans la forme envisagée. Alors que tu en parlais, Denis, il y a quelques quand même idées qui avaient été émises il y a quelques jours, notamment Jackie Lorenzetti qui a proposé au tournoi d'organiser justement à l'U Arena et avec les hôtels autour ce tournoi dans une ville sanitaire.
Oui.
Mais bon, a priori, ça n'a pas suscité de réaction. Hein.
À moins qu'ils soient obligés d'en passer par là, parce qu'au départ, c'était pas le vœu pour l'intention de Bernard Laporte de faire ce tournoi comme ça. Maintenant, si le ministère dit qu'il faut faire comme ça, peut-être que ce sera la solution envisagée.
Ou alors un report, on le disait, ils annoncent un pic avec le variant anglais mi-février, début mars.
Le seul souci, c'est si vous faites un report, vous le mettez quand le tournoi.
Mais faut avancer tout le championnat.
C'est ce que je proposais la semaine dernière, c'est-à-dire.
Mais t'annules l'Australie, t'annules la tournée, t'annules tout.
Oui, mais tu parles. J'ai lu aussi une mini Coupe du Monde qui aurait lieu cette année.
C'est en Australie, ils ont commencé un peu à halluciner en disant bon, on pourra faire une petite Coupe du Monde, venez tous. Ouais, bien sûr.
Oui, en Australie, tu restes 6 mois dans ta chambre d'hôtel avant de jouer au rugby quand même.
Non, mais c'est vrai que c'est très incertain et le reporter, en tout cas, on peut pas l'annuler. Les droits de télé sont trop importants pour les différentes fédérations. Imaginez la fédération irlandaise, s'il n'y a pas de tournoi, c'est la faillite totale. C'est obligé pour eux. Ils sont encore plus en galère que nous dans les pays britanniques.
Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les fédés, même la fédération française, peuvent pas se passer des droits de télé. Hein. Donc, est-ce qu'on avance le championnat, on met le tournoi après les phases finales du championnat, la Coupe d'Europe, il va falloir tricoter comme ça.
Oui, et puis nous, il faut qu'on y aille sur le terrain aussi.
Oui, t'as raison. Six semaines à Twickenham,
c'est pas bien parti.
À Heathrow, comme je disais la semaine dernière.
C'est pas bien parti.
À Rome, je regardais aussi, c'est pas bon là. J'ai regardé là pour aller en Italie.
Mais à l'U Arena, on va t'enfermer aussi.
Paris, la défense Arena.
Au Paris, la défense.
Avec Jackie.
Paris, la Défense Arena. On va t'enfermer avec Jackie dans un hôtel là-bas. Tu vas être bien pendant 6 semaines. Tu n'auras pas le droit de sortir ni même d'aller voir un chèche.
Bagarre de chèche.
Bon,
juste une petite précision. Je vous ai dit 1,2 million de Français devant le top 14. Mais quand on clique sur l'article, après, ils disent il y a toute une colonne avec tous les résultats de chaque chaîne. Il y a 600 000 pour le footy.
Ouais.
Voilà, c'est peut-être pas très. Ça paraissait beaucoup.
Sur deux week-ends, ça peut faire 1 million de
Le journalisme, c'est de la précision. Coupe les infos.
Jean-Michel, à peu près.
Vous écoutez ce podcast, vous venez chercher ces infos et c'est sérieux. Quoi.
Merci, bravo.
Très sérieux. Oh là là là. Merci les garçons. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, avec 3 milliards de téléchargements de podcasts
à La Rochelle.
Les poteaux. À La Rochelle. Voilà. Merci les gars. À la semaine prochaine. Entre les poteaux. Ciao.